Paul a parlé il y a un instant de cette devise de l'année. C'est une tradition effectivement dans notre église de choisir un ou quelques versets pour l'année. Et je voudrais signaler qu'il y a des marque-pages avec cette devise et que vous les trouverez à la table juste à la sortie de l'église. Donc vous pouvez le prendre pour vous en souvenir. Il était une fois un prédicateur qui un jour donna un message dans son église. Alors, le message était relativement apprécié. À la sortie du culte, quelques-uns ont exprimé leur appréciation de ce temps d'enseignement. Le dimanche suivant, l'église est à nouveau réunie, et c'est le même prédicateur qui s'avance pour donner le message du jour. Et là, surprise, c'est exactement le même que la fois précédente. Alors là, les gens se disent, tiens, c'est étonnant, mais après tout, c'est pas mal d'entendre le même message deux fois de suite, hein, d'ailleurs, il se trouve que ce même message a déjà été donné ce dimanche, donc ça peut arriver ce dimanche matin. On se dit, bon, ça permet de se rattraper après le petit somme qu'on a piqué à la fin du deuxième point, pourquoi pas. La semaine suivante, le prédicateur s'avance à nouveau, et hop, c'est le même message. Et là, les gens commencent à se poser quelques questions quand même, et à se dire, il a besoin de vacances, le pauvre, ça va pas, ça fait trois fois qu'il nous apporte le même message. Donc quelques-uns vont le voir à la fin du culte pour lui dire ça va, et puis pour lui dire bon, ce message, c'est vrai qu'il est pas mal, mais enfin ça fait trois fois de suite que tu nous l'apportes et c'est exactement la même chose. Et là le prédicateur répond, quand je verrai que l'église l'a mise en pratique, j'arrêterai de le prêcher. Alors je vous rassure tout de suite, je ne m'identifie pas moi-même à ce prédicateur et je n'applique pas cet exemple à notre église, mais cette petite histoire, elle illustre bien le danger d'une écoute stérile. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter. Dans un instant, on va lire le texte de ce soir. Et je voudrais simplement signaler que ce texte se trouve dans une traduction un peu différente de celle que nous utilisons d'habitude. Donc, il n'est pas dans les Bibles, enfin, il est dans les Bibles bleues, dans une traduction légèrement différente. Vous pouvez bien sûr suivre, si vous le voulez, dans les Bibles bleues. Mais je vais lire dans la seconde 21. Et le texte va être affiché maintenant sur les diapos. Donc Jacques 1, les versets 16 à 25. Et je rappelle au passage que Jacques, c'est très certainement, il s'agit du Jacques qui est le frère de Jésus et qui était l'un des premiers responsables de l'église de Jérusalem, qui écrit cette lettre à des églises dans les toutes premières années de l'Église, donc quelques années seulement sans doute après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Je lis donc Jacques chapitre 1, versets 16 à 25. Je vais lire simplement comme ça. « Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières en qui il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. » Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter, c'est notre devise, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Je vous propose de réfléchir à ce texte en trois temps, et c'est le troisième temps qui attirera tout particulièrement notre attention sur la devise que nous avons choisie. Tout d'abord, une parole plantée en nous, ensuite une parole à accueillir, et enfin une parole qui pousse à l'action. Tout d'abord donc une parole plantée en nous. Au verset 16, Jacques nous rappelle que toutes les bonnes choses dont nous pouvons nous réjouir tout bienfait et tout don parfait, c'est ce qu'il écrit, viennent de Dieu lui-même. Tout ce qui est bon nous vient du Créateur, qui est source de toute bonté. Mais il précise les choses au verset 18 en évoquant le plus grand bien qui vienne de Dieu. C'est cette œuvre par laquelle il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. L'image que Jacques nous donne ici et qu'on trouve à d'autres endroits dans le Nouveau Testament, c'est l'image de la nouvelle naissance. Jésus en particulier a parlé en termes de nouvelle naissance, et Jacques, même si ce n'est pas l'expression exacte qu'il utilise, est tout à fait dans le même registre. Il nous dit que Dieu a donné la vie, littéralement, il a engendré ceux qui ont cru en son Fils Jésus-Christ, et il les a engendrés par la parole de vérité. Cette nouvelle naissance, donc, Dieu l'a accomplie par la parole de vérité. Et on va voir un peu ce que ça veut dire. Mais ça évoque l'image d'une parole qui est comme une semence que Dieu a plantée en nous et qui fait de nous une nouvelle créature. Et c'est ce qu'il va dire d'ailleurs au verset 21. Accueillez avec douceur la parole plantée en vous. Jacques poursuit en expliquant le but de cette nouvelle naissance. Si Dieu nous a donné la vie par la parole de vérité, c'est, ce qu'il rajoute, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ces créatures. Et peut-être que ces paroles nous paraissent à première lecture pas très claires. Mais l'expression un peu mystérieuse s'éclaire à la lumière d'autres textes bibliques. Dieu est intervenu au sein d'une humanité perdue pour créer une nouvelle humanité, pour créer un peuple fait d'hommes et de femmes qui le connaissent, qui l'aiment et qui vivent leur vocation de créature à l'image de Dieu. La Bible nous dit qu'un jour, cette nouvelle humanité, elle sera établie dans un monde nouveau, mais dès aujourd'hui, la parole de vérité, elle est plantée dans le cœur de ceux et celles qui ont placé leur foi en Jésus. Et donc, elle fait de ses disciples, dès maintenant, comme les premiers ou les prémices de cette nouvelle création. Une image qu'on peut donner à ce sujet, c'est l'image de l'embryon humain. On sait qu'un embryon a déjà en lui toutes les informations génétiques qui vont permettre, si Dieu le permet, à un être humain de naître, de grandir, de devenir adulte. Alors la pleine concrétisation de tous ces attributs génétiques n'a pas encore eu lieu. Quand on voit l'embryon au microscope, on ne voit pas les yeux verts ou bleus, la taille, la couleur des cheveux, etc. Mais tout est déjà là et a commencé à se développer. Et un peu de la même façon, la parole de vérité, elle n'a pas encore transformé tout notre être, mais c'est comme si Dieu avait déjà placé en nous l'empreinte génétique de Jésus-Christ, si on veut. Mais alors, ça serait bien de préciser un petit peu ce que Jacques entend par cette expression « la parole de vérité ». Donc, il nous parle d'une parole plantée en nous, qui peut sauver l'âme, verset 21. Un peu plus loin, il parle d'une loi de liberté, au verset 25, qui est aussi une loi parfaite. Et ce que Jacques écrit ici rappelle fortement quelque chose que le prophète Jérémie a écrit dans l'Ancien Testament, donc bien des siècles avant Jacques. Il écrit ceci au chapitre 31, versets 31, puis 33 et 34. Donc je cite quelques extraits. « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et eux, ils seront mon peuple. Je pardonnerai leurs fautes, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Le prophète Jérémie, dans ce texte, annonce comme une révolution spirituelle à venir, par laquelle Dieu va se faire connaître personnellement de ses enfants, en pardonnant leurs fautes, en se réconciliant avec eux. Et Jacques, ici, se place dans la continuité de ce que Jérémie annonçait. Quand il évoque la parole plantée en vous, il ne parle pas, en premier lieu, je pense, des Écritures, de la Bible elle-même, mais il parle plutôt de la bonne nouvelle qui est au cœur des Écritures. La bonne nouvelle du pardon de Dieu en Jésus-Christ et de la nouvelle naissance grâce à lui. C'est intéressant de noter que l'apôtre Pierre, qui a écrit sans doute un peu plus tard, s'exprime de façon très proche dans sa première lettre, chapitre 1, versets 23 à 25, il écrit ceci en parlant à des chrétiens. Il leur dit « Vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. » Et un peu plus loin, il précise « Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Donc pour Jacques, comme pour Pierre, la parole qui a été plantée en nous, c'est l'Évangile. C'est la bonne nouvelle du pardon de toutes nos fautes grâce à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, par laquelle, comme Paul nous l'a rappelé un peu plus tôt, eh bien Dieu nous déclare juste à ses yeux, en dépit de nous-mêmes. Et cet Évangile, si nous avons placé notre foi en Christ, c'est notre nouvel ADN. C'est vraiment ce qui fait notre identité si nous sommes chrétiens. C'est ce qui nous donne une nouvelle raison d'être. Donc il ne s'agit pas simplement pour nous de nous positionner par rapport à quelque chose qu'on entend, un message, même s'il y a cet aspect, bien sûr, mais il s'agit d'être cohérent avec ce qui fait notre nouvelle identité. Et ça nous amène à notre deuxième point, une parole à accueillir. Première lecture, il y a quelque chose d'un peu étonnant dans ce texte, c'est que d'un côté, Jacques nous dit que la parole, elle a été plantée en nous, et d'un autre côté, il nous dit qu'il faut l'accueillir avec douceur. Mais pour lui, il n'y a aucune contradiction. La parole, oui, elle a trouvé racine en nous, mais elle ne reste pas comme ça cachée au fond de nous. Elle est dynamique, elle nous fait vivre, et en ce sens, elle doit être accueillie au quotidien. Un auteur chrétien, John Piper, utilise à ce sujet l'image de l'oxygène qui est présent dans notre corps, mais que nous devons accueillir sans cesse par la respiration. Mais à quoi est-ce que ça ressemble concrètement d'accueillir avec douceur la parole ? La première chose qu'il faut souligner, c'est l'attitude à laquelle Jacques nous invite. Accueillez avec douceur la parole plantée en vous, verset 21. Et cette douceur, elle contraste avec ce que Jacques décrit juste auparavant, toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté. C'est comme si face aux difficultés, aux tensions et aux souffrances de la vie, alors qu'on s'apprête à réagir au quart de tour, à réagir fortement, Dieu nous disait « Attends, sois lent à parler, lent à la colère, mais dépêche-toi plutôt de m'écouter, d'écouter ma parole. » Et pour Jacques, nous devrions être des hommes et des femmes qui, face à toutes les situations de la vie, ont pour premier réflexe de revenir au cœur de l'Évangile, de revenir à cette bonne nouvelle par laquelle nous avons été sauvés. Parce que cette bonne nouvelle, elle a transformé et elle transforme notre vie dans tous ses aspects. Par exemple, l'Évangile me rappelle que je n'ai pas besoin de faire sans cesse valoir mon honneur ou mon bon droit en toute situation. Parce que Jésus-Christ a renoncé à son honneur, il a renoncé à son bon droit, si l'on veut, pour nous sauver, lui qui est Dieu de toute éternité, qui a droit à tous les honneurs, il a accepté, on l'a rappelé récemment à l'occasion de Noël, de venir humblement comme un être humain dans notre condition, et puis de subir l'humiliation de la mort à la croix pour nous sauver. L'Évangile donc me donne une perspective différente sur l'image de moi-même. Je n'ai pas besoin non plus de me conformer aux valeurs de ce monde, aux dépens de ce qui est bon, de ce qui est juste et vrai, parce que Jésus-Christ a prouvé par sa résurrection que si le monde et ses valeurs passent, et ça on le constate tout le temps, eh bien lui en revanche demeure éternellement. Je n'ai pas non plus besoin de me laisser accabler, écraser par la souffrance, même si la souffrance peut être très réelle et tout à fait justifiée, mais elle ne doit pas m'accabler. Parce que je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, comme nous dit par ailleurs le Nouveau Testament, de ceux qui sont appelés selon son projet. Et je sais que Dieu m'a déjà donné ce qu'il y a de plus précieux, une relation éternelle avec lui, par Jésus-Christ. La plus grande des bénédictions, je l'ai déjà reçue. Ça aussi, ça doit changer mon regard sur le quotidien. Donc accueillir avec douceur la parole, c'est recevoir encore et encore cette grâce de Dieu qui a changé ma vie et qui doit changer mon regard sur ma vie. Alors maintenant, comment faire pour que cette bonne nouvelle, elle soit au centre de tout ce que nous vivons, de tout ce que nous disons? Et c'est là qu'intervient la lecture, ou l'écoute, en tout cas la méditation de la Bible, à la fois à titre individuel et en tant qu'Église. La méditation régulière de la Bible est indispensable parce qu'elle nous rappelle comment Dieu a manifesté son amour pour les pécheurs que nous étions. Elle nous permet de nous situer dans une longue histoire du salut qui nous révèle qui est Dieu et qui nous révèle ses promesses, ses actes en notre faveur. Elle nous rappelle qui nous sommes aussi par rapport à Dieu. Et nous avons besoin constamment de ce rappel dans notre quotidien. Nous avons besoin d'être exposés régulièrement à la parole et à la bonne nouvelle qu'elle communique, parce que justement c'est notre ADN, c'est le socle même de notre vie. Donc il ne s'agit pas de se dire « je vais lire la Bible parce que je suis un bon chrétien et c'est un des actes religieux que je dois accomplir », mais il s'agit de nous nourrir d'une bonne nouvelle qui est incontournable et qui est vitale pour nous. Et cette bonne nouvelle, elle est plantée en nous, nous dit Jacques. Par la nouvelle naissance, c'est comme si Dieu avait, si on veut prendre cette image, c'est comme s'il avait placé dans notre jardin une source d'eau vive. Et selon cette image, méditer régulièrement la Bible, ce n'est pas faire couler la source, c'est Dieu qui l'a fait couler. Ce n'est pas non plus aller chercher quelque part une source d'eau vive qui serait cachée, mais c'est simplement se lever, peut-être se lever du canapé, éteindre la télé ou l'ordinateur, prendre un seau et aller puiser à cette eau vive. Or, la tentation, souvent, elle est grande de se priver de cette eau vive et de préférer plutôt le coca tiède que nous sert notre civilisation en permanence, sous la forme des multiples messages de ce monde auquel nous sommes exposés chaque jour. Peut-être arrêter là les métaphores, sinon vous n'allez plus vous y retrouver. En fait, la question clé pour chacun d'entre nous, c'est pas tant est-ce que j'arrive à méditer régulièrement la parole ? C'est rapidement écrasant de se dire cela. Est-ce que j'ai fait ma lecture biblique aujourd'hui ? Est-ce que j'y arrive ? Est-ce que j'y arrive ? Mais plutôt, est-ce que je désire méditer régulièrement la parole ? Parce que vous avez sans doute remarqué ça dans votre vie. Lorsqu'on désire vraiment quelque chose, on fait l'effort pour l'obtenir. Alors si nous désirons vraiment méditer la parole, si nous la considérons vraiment comme un bien désirable par-dessus tout, alors comment imaginez que nous ne ferons pas l'effort de la méditer régulièrement. Et peut-être que nous devrions commencer par demander à Dieu, en ce début d'année 2014, de nous donner un plus grand désir de sa parole. Je sais que pour moi, je dois demander cela encore et encore, une plus grande aspiration. Et je reviendrai un peu là-dessus en conclusion. Mais on en arrive au troisième et dernier point qui nous amène plus précisément à méditer notre devise. Une parole à mettre en pratique. Jacques vient de mettre l'accent sur l'écoute de la parole, qui est très importante. Il ne faudrait surtout pas faire dire à Jacques que l'écoute est moins importante que la mise en pratique. Les deux vont de pair. Mais au verset 22, il précise immédiatement « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter. » Et il précise « En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » C'est ça qui pourrait nous empêcher de la mettre en pratique. Je ne pense pas que Jacques veuille nous dire ici « Ouvre ta Bible » prends un verset au hasard et va faire exactement ce qui est écrit. Ça pourrait donner des situations assez cocasses d'ailleurs. Et la Bible n'est pas une sorte de mode d'emploi de la vie, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois ou avoir tenté de dire. C'est pas un mode d'emploi où voilà, à chaque situation il y a telle règle qui s'applique. La Bible est plutôt l'histoire de la réconciliation entre Dieu et l'humanité perdue. Une histoire qui traverse la Bible de l'Ancien au Nouveau Testament et qui culmine dans la venue, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ces actes par lesquels Dieu a garanti éternellement l'avenir de tous ceux et celles avec lesquels il s'est réconcilié. Et pour Jacques, comme pour les autres auteurs bibliques, la bonne nouvelle, ce n'est pas simplement un message auquel on adhère ou non, mais c'est une vie nouvelle qu'on reçoit et qu'on fait sienne ou qu'on rejette. Il n'y a pas d'alternative à ces deux options au final. Or, si j'ai vraiment compris cette bonne nouvelle, je ne peux plus vivre comme avant. Et Jacques nous donne une image lui-même pour nous aider à comprendre. Il nous dit ceci au verset 23. « Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. » Alors pour paraphraser un peu cette image, imaginons un homme qui se regarde dans un miroir et il voit par exemple que sa cravate est un peu de travers, que le col dépasse, etc. Il regarde, il hoche la tête et il oublie aussitôt et il poursuit son chemin sans rien changer. En revanche, poursuit Jacques, verset 25, celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Donc Jacques nous dit que si on plonge les regards dans les Écritures et dans cette bonne nouvelle qui en est le cœur, eh bien nous nous verrons tels que nous sommes, à la fois pécheurs et constamment dépendants de la grâce de Dieu, mais en même temps, nous nous verrons aussi pardonnés, aimés, libérés par Dieu pour vivre pleinement la joie et l'abondance qui sont dans sa présence. C'est intéressant de voir que pour Jacques, celui qui a contemplé cette bonne nouvelle, eh bien, il va spontanément se mettre au travail, verset 25. Non pas pour obtenir la faveur de Dieu, cette faveur est déjà obtenue en Jésus-Christ et par Jésus-Christ, mais parce qu'il a compris que la vie vécue dans la paix avec Dieu et l'obéissance envers lui est infiniment désirable par-dessus tout. C'est comme si Jacques, et au-delà de Jacques, Dieu lui-même, nous appelait à entrer dans un cercle vertueux. C'est-à-dire que plus on médite la parole et la bonne nouvelle, plus on a envie de mieux connaître Dieu. Et plus on connaît Dieu, plus on a envie de se mettre en marche pour vivre une vie de joyeuse obéissance à notre Seigneur. Le cœur de la bataille, encore une fois, il se trouve du côté de notre volonté. Et comme l'écrivait le célèbre auteur britannique C.S. Lewis, notre problème n'est pas que nous désirons trop de choses, mais plutôt que nous ne désirons pas assez. Et pour prendre une autre métaphore, nous préférons les chips que nous sert notre civilisation en permanence, qui vont avec le coca tiède. Même dans ses meilleurs moments, c'est facile à manger, mais ça ne nourrit pas, ça, c'est mauvais pour la santé très souvent. Nous préférons cela au repas somptueux que Dieu nous offre. Et ce qui est vrai en gastronomie l'est aussi en spiritualité, c'est-à-dire que plus on est habitué aux bonnes choses, plus on les désire et plus on fait des efforts pour pleinement en profiter. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant par de faux raisonnements. Alors comment faire pour appliquer cette devise en 2014 ? Eh bien, je vous propose d'emporter avec nous quatre résolutions. Quatre résolutions donc. Première résolution, demandons à Dieu d'agir dans notre volonté pour nous donner plus envie de sa parole. N'hésitons pas à lui demander régulièrement, à lui demander de nous donner le désir. Parce que déjà dans le simple fait de demander cela, il y a un début d'aspiration à la parole. Et donc c'est comme si Dieu déjà commençait à nous répondre au moment même où nous demandons. Deuxième résolution, inscrivons dans notre quotidien la méditation de la parole. Pas comme un devoir religieux, encore une fois, mais comme un rendez-vous avec l'essentiel, avec la source d'eau vive dont nous avons besoin parce que ça fait partie de notre nouvelle identité. Alors pour beaucoup, ça sera par la lecture de la Bible. Peut-être que pour certains, l'écoute de la Bible sera une option préférable. Et il y a beaucoup aujourd'hui, beaucoup de possibilités de télécharger des textes, simplement le texte biblique lu. Si vous avez besoin, vous voulez des liens ou des indications à ce sujet, n'hésitez pas à venir me poser la question. Ce qui est important, c'est de méditer régulièrement la parole. Et encore une fois, lorsqu'on désire vraiment quelque chose, on va faire l'effort nécessaire. S'il s'agit de se lever 20 minutes plus tôt le matin pour pouvoir avoir ce temps pour la lecture de la parole, eh bien faisons-le. S'il faut réduire de moitié sa pause déjeuner, faisons-le. S'il faut réduire de moitié le temps passé sur les réseaux sociaux, faisons-le. Parce que les bénédictions qui résulteront d'un tel rendez-vous quotidien avec la parole de Dieu, elles compenseront plus que largement la perte, entre guillemets, qui sera subie. Troisième résolution, à la lumière de cette bonne nouvelle méditée quotidiennement, combattons les faux raisonnements évoqués par Jacques au verset 22. Tous ces messages qui nous éloignent de l'évangile, par exemple, la vie est courte, profitons-en sans se poser trop de questions. C'est un peu le message très à la mode aujourd'hui. Ou bien à chacun de donner soi-même le sens à sa vie, à chacun d'inventer son Dieu. Ou bien, et ça c'est peut-être quelque chose qui nous guette encore plus, même pour nous qui sommes chrétiens, cette idée que ce qui me semble bon, c'est sans doute bon. Si ça me semble bon, c'est sûrement bon. Bah, pas forcément. Et le seul véritable remède contre ces fausses conceptions du monde, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est la preuve suprême, cette bonne nouvelle, c'est la preuve suprême que nous avons été créés par un Créateur qui nous aime et qui nous a créés pour lui, pour le connaître, pour l'aimer et pour le servir. Et enfin, quatrième et dernière résolution, une fois que nous aurons fait taire ces faux raisonnements qui nous guettent quotidiennement, disons quotidiennement à Dieu notre disponibilité pour lui et demandons-lui de nous aider à mettre la parole en pratique. Alors ça peut paraître bizarre de dire « disons à Dieu notre disponibilité », il sait toute chose, mais disons-le comme un engagement. « Seigneur, aujourd'hui je suis disponible pour toi. » Suscite des occasions de service, des occasions d'aimer mon prochain inconditionnellement, des occasions de témoignage. Aide-moi à choisir l'obéissance plutôt que de me laisser à la tentation. Très souvent, lorsque nous demandons ces choses, eh bien Dieu répond. Et c'est souvent le problème est souvent que nous ne les demandons pas assez. Si nous aspirons à la parole, si nous la méditons, si nous la préférons cette parole aux faux raisonnements, et si nous nous déclarons jour après jour disponibles pour Dieu, peut-être qu'il n'y aura même pas besoin d'aller chercher des occasions de mettre la parole en pratique, parce que Dieu lui-même les suscitera. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, en ce début d'année 2014, nous voulons te remercier pour ta fidélité et ta bonté envers nous. Comme ça nous a été rappelé plus tôt, toi seul sais de quoi est fait 2014 pour chacun d'entre nous. Nous nous en remettons à toi, nous te faisons confiance, sachant que tu seras avec nous dans les bons et les mauvais moments et que tes promesses à notre égard, elles restent fermes. J'aurais te demandé de te révéler à ceux et celles qui sont peut-être parmi nous ce soir et qui ne te connaissent pas encore, de leur faire connaître la grâce et la bonté qui est en toi, cette bonne nouvelle qui transforme la vie. Merci parce que tu es patient envers nous et si souvent nous vivons de façon non conforme à cette bonne nouvelle, nous te demandons de changer nos cœurs encore et encore et de nous donner le désir toujours plus grand de t'obéir et de t'aimer. Au nom de Jésus. Amen.